13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Un nouveau rendez-vous qui vous régale. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez, que vous êtes en train de manger. J'ai avec moi le palais le plus sollicité de France, Manuel Mariani. Bonjour Manuel.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Critique gastronomique, super bien ce matin. Comme vous êtes drôle et je voudrais faire partager votre humour à l'ensemble des auditeurs.
Hein.
On appuie sur le champignon ce matin.
Ah bah oui, absolument Philippe.
Hein, puisqu'on absolument. Va parler de champignons avec notre invité qui s'appelle Atef Barbouche. Bonjour et bienvenue.
Bonjour l'équipe.
Vous êtes marchand de primeur ou primeur? Là Manu, j'aimerais bien que vous me fassiez une explication de texte.
Oh, il y a beaucoup d'appellations. Enfin bon, je pense qu'Atef pourra confirmer. Il y a le marchand de quatre saisons, le primeur, le marchand de primeur. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appellations, mais au départ, les gens qui vendaient des primeurs, c'était les maraîchers eux-mêmes. Hein. Ils venaient à Paris, ils louaient des roulottes. Moi, je me souviens dans mon enfance encore, au marché Saint-Antoine, il y avait des gens qui louaient des petites roulottes vertes, vous savez, qu'on mettait sur les trottoirs.
Ouais, les roulottes en bois.
Voilà, oui,
ouais.
Et il y avait des loueurs de diables et de roulottes, et les maraîchers venaient de la périphérie de la région parisienne, parce qu'il y avait encore beaucoup d'agriculture autour de Paris à l'époque.
Comme le marché des Halles, d'ailleurs.
Voilà, absolument. Et ils venaient effectivement, par exemple, il y a la rue des Poissonniers à Paris, c'est parce que c'est la rue, enfin, c'était l'artère que prenaient les poissonniers qui venaient du nord de la France pour aller jusqu'à Rungis vendre les poissons. Voilà, donc on fera un petit peu d'historique des
À savoir que le marché des Halles a été transféré à Rungis et aujourd'hui, nous, primeurs. Donc aujourd'hui, bien sûr, on utilise l'appellation primeur. Voilà. On nous a appelé marchand 4 saisons à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est beaucoup généralisé. On a un métier, il y a un savoir-faire qui se met en avant. Donc on met notre métier chaque jour sur certaines...
Voilà, au service de...
Exactement, au service de certaines personnes différemment. On essaie de proposer les meilleurs produits du matin sélectionnés aux Halles. Donc, on nous appelle les primeurs. Et les primeurs, aujourd'hui, on est fiers de venir vous présenter le champignon dans tous ses états. Cuit, croquant, enfin, dans tous ses états. Et je pense que vous allez beaucoup apprécier.
Bien. Et vous dirigez avec vos deux frères une institution. Hein, ça s'appelle la Ferme de Longchamp, l'acronyme. C'est...
Oui, depuis 1948.
Hein. Alors, la Ferme de Longchamp, effectivement, existe depuis 1948. À savoir que aujourd'hui, nous, primeurs, on développe pas mal de créations, que ce soit dans les fruits ou dans les légumes. Et aujourd'hui, une nouvelle structure a vu le jour qui s'appelle LFL Création et qui fait justement des créations sur toutes ses formes. D'ailleurs, avec les champignons aussi dans nos créations
entre
de légumes.
Autres, ouais. Alors, mais vous, à la base, Atef, vous ne venez pas du domaine des primeurs, même si votre papa était déjà à la tête de la ferme de Longchamp avant. Mais vous êtes pâtissier à la base.
À la base, effectivement, j'étais pâtissier, j'avais suivi ce circus parce que j'aimais la création et c'est vrai que dans la pâtisserie, on retrouve ce côté créatif, même si c'est un métier qui est pas facile dans l'ensemble, mais c'est un métier où je prenais plaisir. Et effectivement, je voulais reprendre une boulangerie à l'époque et mon papa, à ce moment-là, voulait vendre son entreprise qui était primeur. Et du coup, j'ai tenté cette aventure et ce côté artistique m'a beaucoup manqué au bout d'un an d'expérience dans le fruit et légumes. Sachant que je connaissais déjà le métier du fruit et légumes parce que j'aidais mon papa étant jeune à faire ses rayons
dans l'entreprise familiale.
Exactement. Donc du coup, j'ai voulu tenter cette aventure et voilà, bah aujourd'hui, on fait ces belles créations qui accompagnent ce beau métier et je peux vous dire que c'est une belle fierté.
Alors, j'ai vu une chose justement pour moi qui suis pas un fan de desserts et de pâtisserie, vous faites des gâteaux mais à base de fruits, c'est-à-dire sans pâte, sans rien, sans génoise, sans chantilly, etc. Juste des fruits, mais vous faites un vrai gâteau.
Alors effectivement, c'est un gâteau 100% fruits. On n'a pas de sucre, on n'a pas de colle alimentaire parce que j'ai pu tout entendre sur ce gâteau de fruits parce que ça fait plus d'un an maintenant qu'il a été lancé. Et certains chefs aussi m'ont dit que je mettais du glucose et ce qui m'a permis de pouvoir m'aventurer dans certaines cuisines pour leur démontrer que mon gâteau de fruits, justement, il était fait que à base de fruits.
Oui, on mettra la photo d'une de vos créations sur le site internet. De ce week-end pour que les auditeurs puissent voir effectivement à quoi ça ressemble, mais on dirait effectivement un vrai gâteau, quoi.
Alors, votre père était primeur. Est-ce que pour lui, ça aurait été un crève-cœur que de transmettre ce qu'il avait créé, c'est-à-dire cette entreprise, à d'autres personnes qu'à sa famille?
Mon père a beaucoup donné pour cette entreprise. C'est vrai que ça lui tenait beaucoup à cœur que ce soit ses enfants qui reprennent cette entreprise et qu'il la développe, même si c'était autrement, qu'il n'était pas d'accord sur certains points de vue de développement dans l'entreprise. Parce que quand vous proposez à votre papa, il y a 6 ans, de reprendre l'affaire et de faire des jus de fruits dans un primeur, à la base, c'était pas trop récurrent. Mais on a fait cette aventure, les jus de fruits ont très bien marché. On a lancé le jus de grenade il y a 7 ans, pressé bien sûr en direct,
oui, pour préserver tout le... C'est la mode, on en voit partout.
Tous les bienfaits nutritionnels du fruit, effectivement, aujourd'hui, on en voit partout. Donc vous voyez, aujourd'hui, justement, il nous soutient dans toutes ces démarches. Et c'est vrai qu'au début, vous savez, il avait sa génération et il y avait la nôtre. Et ça a fait ce choc des générations.
Ouais, vous êtes passé, vous, du végétal au digital, comme on dit. Mais par exemple, vous, votre père, il avait un savoir-faire. Qu'est-ce qui vous a, en tant que primeur, qu'est-ce qui vous a transmis comme savoir-faire?
Mon père m'a tout appris dans le métier, c'est-à-dire toutes les bases du métier, que ça soit sélectionner sa marchandise, comment la conserver, comment la mettre en rayon, parce que faut savoir qu'il y a des codes aussi à mettre en rayon. C'est pas on prend une courgette, on la met dans l'étalage, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a une façon de faire, et c'est vrai que toutes les façons de faire, comme il disait mon père à l'époque, il me dit Atef, quand il m'apprenait à faire une base d'orange, vous savez, il me dit Atef, regarde, c'est comme dans la vie, si tu fais mal ta base, tout s'écroule.
La pyramide là.
La pyramide, ouais. Exactement. Donc du coup, vous voyez, c'est que des petits détails comme ça où il m'a bien formé dans le métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, si l'excellence est présente au magasin, c'est entièrement grâce à lui. Et aujourd'hui, on fait que perpétuer ce qu'il a fait et on essaie de le développer pour bien sûr s'adapter à la demande de nos consommateurs aujourd'hui qui changent au quotidien.
Oui, voilà. Alors, vous dites on y arrive grâce à lui, mais c'est vous dites on parce que vous n'êtes pas tout seul. Et c'est aussi parce que vous êtes avec vos deux frères Hassen et Bassem et vous êtes super complémentaire parce que Hassen, lui c'est Monsieur Fruits et Légumes, c'est lui qui fait les achats, qui sélectionne.
Hassen, c'est la sélection des achats. En fait, c'est très bien. On a en fait, si vous voulez, on a chacun son rôle.
Voilà. Pour le faire Bassem, mieux. Lui, c'est le gestionnaire.
C'est le 2.0 Bassem. Voilà. Donc.
Et puis vous l'artiste.
Et moi l'artiste, et bien sûr sans oublier bien sûr mon équipe, sans elle, sur qui je ne serais pas là non plus aujourd'hui, et bien sûr, c'est grâce à elle qu'on avance aussi au quotidien, et je remercie mon équipe et la famille qui me soutient dans cette démarche et qui évolue au quotidien avec nous.
Alors vous avez perpétué la tradition familiale, vous continuez à travailler en famille. Alors, je ne sais pas comment c'est en province, mais par exemple à Paris, beaucoup de marchands de primeurs ont été repris par des Chinois. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui plus personne ne veut faire ce métier et que c'est quelque chose qui n'attire pas, une profession qui n'attire pas les jeunes parce qu'il faut aller au hall très tôt le matin?
En fait, bien au contraire, je dirais que le métier évolue et peut-être qu'à une certaine époque, ce métier était fait par une certaine personnalité dans le milieu, mais aujourd'hui, on a tous les secteurs, que ça soit les Chinois, les Maghrébins. On peut avoir même des Américains. J'allais aux États-Unis, je vois des primeurs. Donc, vous voyez, ça fait plaisir de voir un marchand de 4 saisons comme ça dans les rues, comme à l'époque chez nous dans les Halles. Donc, non, je pense que c'est un métier qui se développe et qui donne envie à certaines personnes aussi de faire ce métier. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rester dans l'ouverture. Et non,
bien sûr. Ça veut dire que les jeunes sont attirés par ces filières.
Aujourd'hui, avec ce qu'on peut proposer de nouveau dans nos boutiques, oui, ils sont attirés par nos. Comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur Martini, par rapport au gâteau de fruits, je pense qu'un jeune serait dans l'euphorie de pouvoir le faire, le réaliser ou même le goûter.
Alors, vous êtes d'origine tunisienne de Djerba, c'est ça ?
C'est ça.
Et c'est vrai que à une époque, quand on parlait, quand on disait je vais acheter des pommes chez l'arabe du coin, souvent c'était des Tunisiens et souvent de Djerba.
Effectivement, c'est pour ça que je disais.
Aujourd'hui, c'est devenu des supérettes, mais à l'époque, c'était des marchands de 4 saisons qui avaient un petit rayon avec 2-3 produits d'épicerie, mais à la base, c'était des marchands de 4 saisons. Est-ce qu'il y a une culture des primeurs à Djerba en Tunisie?
Il faut savoir que nous déjà. Personnellement, moi, je suis né à Paris, donc c'est plutôt mon papa qui m'a appris toute cette culture, justement, comme vous le dites, de Djerba. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que, à la base, les Djerbiens étaient des commerçants. Donc, c'est des gens qui ont toujours été dans le commerce. Et c'est vrai que, arrivés à Paris à une certaine époque, ils ont fait ce métier, justement, d'épicier ou de vente de fruits et légumes. Et il faut pas oublier aujourd'hui que tous ces épiciers que vous avez cités, aujourd'hui, la plupart ont ouvert des magasins primeurs de fruits et légumes. Ils se sont adaptés à la demande. Et c'est vrai qu'on voit plus le petit épicier avec ses deux petites caisses de pommes à l'extérieur de sa façade avec la petite caisse
où il s'assoit
en attendant le client.
Souvent en mauvais
état. Donc on est bien loin de ce cliché. Le métier se modernise et croyez-moi qu'on se bat au quotidien justement pour le mettre en avant et montrer tout son savoir-faire.
Alors justement sur l'évolution du métier, puisque bon, pour en revenir au sujet du jour qui est le champignon, c'est vrai que pendant longtemps, les Français ne mangeaient pas ou peu de champignons, et puis avec tous les avec toutes les émissions culinaires à la télé où on a redonné envie aux Français de cuisiner, le champignon est redevenu sexy, il est redevenu à la mode. Alors vous qui justement pas vous personnellement, mais enfin la ferme de Longchamp depuis 1948 dans votre famille, est-ce qu'on a vu cette évolution du champignon qui est tombé en désuétude et puis qui revient un petit peu à la mode? Est-ce que ça se ressent dans les ventes? Est-ce que les gens demandent des conseils?
Chez les primeurs, si vous voulez, le champignon a toujours été une belle vente, parce que faut savoir que chez les primeurs, on est là pour conseiller nos clients. Donc, faut savoir qu'ils nous demandent pour leur plat. Donc, on n'hésite pas à leur conseiller le champignon comme élément de base, car le champignon est un bon légume. Il a du goût, il est riche en protéines, en vitamines. Donc, c'est un plat qui accompagne très bien les viandes comme les poissons. Donc, chez les primeurs, je pense que ça fait déjà des années qu'on vend des champignons au quotidien. Et de cela, l'évolution, on l'a pas vraiment vu parce qu'on le vend très bien et on sait le conseiller avec les plats qu'il faut.
Alors, la star, c'est toujours le champignon de Paris, parce que c'est quand même la meilleure vente. Même si c'est pas le champignon le plus goûteux, etc. Mais c'est peut-être le plus fin dans le sens facile à cuisiner.
Je dirais qu'il est déjà qu'on peut l'avoir tous dans nos cuisines, parce qu'il a toujours un prix attractif, le champignon de Paris. On a la chance d'avoir des champignons de Paris aujourd'hui à des prix au kilo défiant toute concurrence.
Et c'est vrai. Attendez, c'est combien le prix au kilo qui défie toute concurrence?
Alors tout dépend des primeurs et tout dépend.
Moi, je vois toujours aux alentours de 3,50, 3,90, voire même un peu plus.
Faut pas oublier que c'est au kilo. Il faut pas oublier que le champignon
au kilo, ouais,
ne pèse pas grand chose.
Ouais,
c'est
kilo,
très
un,
léger.
Un
c'est quelques grammes un champignon. Donc c'est pour ça que je dis avoir.
Je vous pose la question, vous voyez.
Une barquette de 250 grammes, ça fait. On a déjà de quoi faire pas mal de.
Bien
pas,
sûr.
Pas mal de.
Avec
de
déjà
choses,
500 grammes de champignons, je vous assure que vous pouvez faire une très bonne poêlée pour 4 personnes.
C'est bien, il n'a pas répondu sur le prix. Il vient d'où le champignon de Paris?
Alors le champignon de Paris, comme le nom s'indique, il venait de Paris à l'époque. Il vient toujours de Paris parce qu'il reste deux carrières à Paris qui font du champignon. Mais aujourd'hui, en grande partie, il vient de Hollande et voilà, c'est des petites caisses.
Comment on le reconnaît quand on fait ses courses? Comment on reconnaît que c'est un champignon qui vient de Paris ou un champignon qui vient de Hollande?
Alors le champignon de Paris, c'est très simple. Il sera toujours conditionné dans des caissettes en bois de 2 kilos. Et le champignon de...
Donc là en vrac, c'est-à-dire qu'on va le...
Voilà, c'est des caissettes en bois, en vrac, et d'ailleurs, il est tout souvent très très beau, blanc, étincelant. Et le champignon qui nous vient de Hollande sera tout le temps mis dans des caissettes bleu plastique. C'est comme ça qu'on le reconnaît généralement.
Voilà, d'ailleurs, il est sous un film plastique et tout. Alors, pour bien choisir les champignons, ça, je dis ça pour les auditeurs, mais c'est vrai que n'hésitez pas à les toucher, parce qu'un champignon, surtout les champignons de Paris, il faut qu'il soit bien ferme et qu'il paraisse bien dense, presque dur.
Il faut savoir quand vous choisissez vos champignons, si vous êtes dans un magasin de libre-service, parce que chez les primeurs, on va pas vous laisser toucher les champignons,
car c'est
très fragile et on fait attention à nos produits, donc on les touche tout doucement pour les mettre en paquet,
parce que
nous, nos champignons, on les fait au quotidien, donc forcément, on a toujours des champignons frais dans nos magasins. Mais un champignon, même si vous le sélectionnez, que c'est un libre service, s'il vous plaît, chers consommateurs, n'appuyez pas sur tous les champignons, car il est très fragile et ça noircit tout de suite. Et qui dit champignon noir, dit plus de vente, et les gens ne seront plus attrayés pour acheter des bons champignons, surtout quand il est noirci, parce qu'il a été touché.
Ou alors, quand on vend des portobello, ça se voit moins quand il noircit.
Ouais, donc du coup, voilà, c'est un petit conseil, et en même temps, vous préserverez vos champignons vous-même pour qu'ils soient très beaux pour le soir même, pour les faire en cuisine, quoi.
Bon, donc le message d'Atef, quand vous faites vos courses, n'appuyez pas sur le champignon.
Quand vous êtes dans les libres services. Alors, on fait traditionnellement l'émission qui concerne les champignons en début de saison, hein, septembre, octobre, novembre.
L'automne.
À l'automne. Et on voit partout cette année que la saison des champignons est décalée, voire même dans certaines régions n'aura pas lieu, ou alors aura lieu au mois de novembre. Est-ce que vous... localement, c'est quelque chose que vous constatez quand vous allez faire vos achats?
Alors, à savoir aussi que le champignon a besoin d'un sol qui soit chaud et de pluie et d'eau. Donc, si on n'a pas de pluie pendant 2 mois, eh ben forcément, on va pas avoir des champignons qui vont pousser. Oui, effectivement, en ce moment, il y a une petite pénurie de champignons. Par exemple, sur les girolles et les cèpes, on a du mal à avoir de la française. C'est très limité. Donc, tout dépend de la saison. S'il y a eu de la beaucoup de pluie, qu'il y a eu un peu de flotte, forcément, on aura des beaux champignons. Si on n'a pas eu, malheureusement, ça va pas favoriser la pousse du champignon.
Alors, Philippe, puisque vous parlez des saisons, quand vous parlez de l'automne, je voulais quand même préciser une chose, c'est que les champignons, ils ont quand même chacun leur saison. Alors c'est vrai que ça se concentre beaucoup autour de l'automne, mais si vous prenez pour les champignons les plus vendus en France, si vous prenez le cèpe qu'on appelle le cèpe de Bordeaux ou le cèpe bronzé, il y a plus de 20 variétés de cèpes. Là, on le trouve à partir de mai, mais la meilleure saison, quand on le cueille soi-même, hein, c'est en général entre août et novembre.
C'est comme la girolle, effectivement, voilà. C'est précoce.
La girolle, ouais, à partir de juin, on en trouve. Là, par contre, ça s'arrête un petit peu plus tôt. La girolle, on en trouve jusqu'à août. C'est là qu'elle est la meilleure. On en trouve après, ensuite. Mais alors, la girolle. Alors, on en parlait avant l'émission avec Atef. Faites attention quand vous achetez de la girolle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres émissions. Achetez de la girolle française. Ou si vous allez acheter de la girolle d'Europe de l'Est, comme on en trouve beaucoup, allez avec votre compteur Gégère, vous allez voir, elle est radioactive. Hein, c'est un petit souvenir de Tchernobyl, parce que c'est vrai qu'il y a régulièrement des analyses qui sont faites. Et il y a des
vous exagérez, Manu.
Non, je n'exagère
mais
pas.
Non, comme toujours. Non,
ce sont des études parfaitement scientifiques. Et d'ailleurs, il y a des
qu'il exagère.
Il y a des girolles.
Je dirais pas qu'il exagère, mais chez les primeurs, comme à Rungis, il a tout à fait d'accord sur des girolles qui viennent de pays de l'Est. Je dirais pas qu'il a pas tort parce que leur forêt favorise la pousse des champignons aujourd'hui dans les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, on a effectivement des champignons des pays de l'Est, mais il faut savoir aussi qu'on a la chance d'être dans un pays qui contrôle ses produits de A à Z. Et aujourd'hui, à Rungis, on a la chance d'avoir des contrôles sanitaires qualité qui contrôlent tous les produits qui rentrent sur les halles, même s'ils viennent de pays de l'Est, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, certains cuisiniers, certains primeurs ont besoin de vendre de la girolle. Donc, ils font appel à quelques producteurs, justement, de pays de l'Est, qui sont restreints à cette zone, même si on reste sur une zone de Tchernobyl. N'oublions pas que c'était dans les airs. Donc,
oui, forcément, c'est vague.
C'est l'Europe.
Ce que je voulais dire, excusez-moi, Atef, mais c'est que il y a certaines régions d'Ukraine où il y a une production de girolles. Ces girolles sont interdites à la vente en Ukraine, mais elles sont autorisées à la vente à l'exportation. Donc, faut quand même le savoir.
Mais pas en France. Voilà, je suis d'accord avec vous, je connais le sujet. Ils sont effectivement exportés et ils ont fait des partenariats avec certains pays que je ne citerai pas. Mais en France, on a la chance d'être justement éloigné de tout ça et très protégé.
Pas de girolles d'Ukraine en France. Voilà. Atef Barbouche est notre invité. On parle du champignon jusqu'à 13h.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
On parle de champignons aujourd'hui, c'est la saison avec Atef Barbouche qui est notre invité. Vous dirigez avec vos frères une institution, ça s'appelle la ferme de Longchamp, Manu. On parlait de la saison tout à l'heure des champignons. Donc c'est vrai qu'on a vu le cèpe, la girolle.
La girolle, oui. On a fait un petit warning sur les girolles d'Europe de l'Est. Alors après, il y a un champignon que j'aime beaucoup, alors qui est pas simple à nettoyer, mais qui est très goûteux et qui est pas si cher que ça. C'est la trompette de la mort. Alors la trompette de la mort, bon, elle est grise ou noire. Moi j'aime bien les trompettes de la mort très noires parce qu'elles sont un peu plus parfumées, je trouve. Ça on les trouve d'août à novembre. Il y a le pleurote aussi. C'est pas la pleurote, c'est le pleurote, je précise. Là qu'on trouve d'octobre à mars. Donc là la saison est très longue pour le pleurote. La morille. Alors la morille, là on n'est pas du tout en automne. La morille c'est de mars à juin.
La star des champignons, la morille.
La star des champignons. Mais alors faites attention parce que.
Oui,
absolument. Mais alors, la morille, il faut la cuire. Et il faut la cuire pas mal.
C'est toxique.
Ouais, c'est toxique. Il y a des gens qui s'empoisonnent avec des morilles crues. Alors, ne vous amusez pas à faire de la cuisine expérimentale, genre je fais mon tartare de morille ou je fais ma morille basse température. La morille, elle doit cuire pendant quelques minutes minimum à haute température pour...
Comme la morille séchée, il faut bien la laisser tremper avant de la cuire. C'est bien les goûter, bien sûr, avant de la cuire, parce qu'on trouve beaucoup de morilles séchées, il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, nos consommateurs... utilisent beaucoup de morilles séchées. En fait, la morille séchée, comment ça s'utilise ? On la met dans l'eau, on la laisse tremper pendant quelques minutes, on les sort et on la fait sauter à la poêle pour accompagner ses légumes ou son petit poisson.
Voilà, on peut filtrer s'il reste un peu de sable le jus de réhydratation des morilles ou des cèpes séchés c'est des cèpes séchés à mettre dans une sauce, ça donne super bon goût. Ne jetez pas l'eau de réhydratation des champignons séchés. Alors pour finir deux derniers champignons, hein, j'ai vraiment pris que les plus vendus. Il y a le champignon de Paris évidemment. Alors le champignon de Paris, on le trouve pratiquement toute l'année parce que contrairement aux autres champignons, il est cultivé, il n'est pas sauvage, mais il y a quand même une saison. Il est meilleur du mois d'octobre au mois de mai. Parce que d'octobre à mai, il contient moins d'eau, donc il a plus de goût forcément.
Effectivement, il reste beaucoup
meilleur,
il
est plus ferme.
Et même sur la couleur, il va être bien blanc. Et je pense que déjà pour reconnaître un bon champignon,
couleur perle un peu, blanc perle.
Il faut qu'il soit bien blanc. Qui veut dire bien blanc, veut dire bien croquant, goûteux, ferme. Et on pourra même le manger en salade croquant.
Voilà, cru en salade.
Voilà, parce qu'un champignon qui va terne, eh ben on saura tout de suite qu'il est spongieux, qu'il va pas avoir de goût et il va ternir votre salade. Il va avoir une couleur grisâtre quand vous allez le couper et c'est vraiment pas bon. Donc privilégiez toujours les champignons très très blancs. Donc quand vous voyez un champignon blanc, ça veut dire que déjà il est ferme, vous n'avez pas besoin de le toucher comme je disais tout à l'heure. Voilà, bien blanc, ça c'est un signe de qualité et je pense que vous pouvez y aller sans problème.
Alors pour conclure avec les saisons à thème, je vais parler du shiitake. Alors le shiitake qui est un champignon à la mode, et qu'on pense être un nouveau champignon venu d'Asie, mais en fait pas du tout, parce que le shiitake c'est ce qu'on a toujours connu sous le nom de lantin de chêne.
D'ailleurs,
mais ça se vendait beaucoup moins bien quand ça s'appelait lantin de chêne.
Les cuisines japonaises, comme vous parlez de gastronomie, c'est quand même eux qui l'ont implanté dans leur cuisine et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est à la mode chez certains primeurs. Faut pas l'oublier, il y a une forte demande.
C'est l'Asie qui l'a ramené à la mode, mais le lantin de chêne on en a toujours trouvé. Et donc la saison là c'est de juin à octobre, Philippe.
Bien. Alors on voit tous ces champignons. Finalement, vous avez dit comment les choisir. Comment ça se lave un champignon?
Alors personnellement,
ça
nous les primeurs,
j'ai envie de dire.
Voilà, on conseille de pas les laver car
ça se nettoie alors.
Voilà, on va dire nettoie, on le brosse. Voilà, un champignon ça se brosse. Pourquoi? Parce que en fait, un champignon ça absorbe. Donc quand vous allez le passer sous l'eau, il va absorber l'eau, il va devenir comme on disait tout à l'heure. Mais alors même s'il est frais, il va devenir spongieux, il va devenir mou. Donc forcément, la texture en bouche ne va plus du tout être la même. On va plus avoir ce goût du champignon qui va ressortir au palais. Donc ne surtout pas le mettre sous l'eau. Ce que je conseille, comme notre ami Martini l'a dit avant le plateau, c'est de le brosser bien comme il faut. Et pour les vrais champignons de Paris, faut pas oublier, ils ont souvent leurs racines avec la terre. Ils les coupent pas. Ils sont dans les caissettes en bois avec leur bout de terre. Donc n'hésitez pas à couper le bout au couteau pour pas rester pendant 25 minutes à nettoyer. Ou même ça va vous démotiver à acheter le champignon parce que des fois on a aussi. Pourquoi vous prenez pas de champignon? Ah bah il faut le nettoyer, il faut le laver. Alors. Justement,
voilà, si vous lavez vos champignons, en plus, vous aurez le double effet qui se coule, c'est-à-dire que la flotte qu'il aura bu, le champignon,
il va vous la
rendre à la cuisson.
Exactement.
Et ça n'aura plus
c'est pour ça qu'on n'aura plus du tout la même texture. Donc, ne lavez pas votre champignon, brossez-le. Si c'est des vrais champignons de Paris, vous allez retrouver de la terre aux racines. Donc, coupez-la avec un petit couteau et coupez vos champignons et utilisez-les comme vous voulez, enfin, sur toutes ses formes. Il va avoir un goût exceptionnel.
Bah, je fais ça avec une brosse à dents à poil moyen et ça marche très très bien.
Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de broche chez eux, exactement comme le disait Monsieur Martini, une brosse à dents, voilà, et c'est reparti.
Bien. Et pour ceux qui, justement, les cuisent, les champignons, pour éviter qu'on restitue trop d'eau, comment on fait?
Alors, mon conseil, c'est d'avoir une huile chaude. Si on veut du beurre pour le goût, on le rajoute après. Mais le début de la cuisson, donc un champignon.
Poêle très chaude, ouais.
Voilà, qui n'est pas lavé, mais juste brossé. Et on met les champignons directement. Faut que l'huile commence à fumer. Dès que l'huile commence à fumer, vous mettez vos champignons dedans. Vous les faites sauter.
Faut savoir qu'un champignon est quand même gorgé d'eau. Il va quand même en relâcher un petit peu. Mais déjà, ne pas le passer sous l'eau avant de le cuire.
Ah oui, non,
déjà, vous allez vous apercevoir qu'il y a 50% d'eau en moins dans votre poêle. Donc, et moi, j'ai un conseil à donner pour une cuisson de champignons 0% d'eau. Ça serait de, justement, le faire cuire tout seul. Comme disait Monsieur Martini, à une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive. Le faire sauter pendant 2 minutes. Les goûter. Et le réutiliser pour cuisiner, que ce soit avec son poisson, ses haricots verts, enfin avec ses légumes. Et là, vous aurez une cuisson parfaite du champignon, 0% d'eau. Voilà.
Comment est-ce qu'on les conserve, les champignons, d'ailleurs? On les met au frigo
à une température de 4 à 5 degrés.
Ouais, bac à légumes.
Voilà, ou dans un bac à légumes. Quand vous allez chez votre primeur, on les met souvent dans les sachets qui sont marrons. C'est des sachets justement qui absorbent l'humidité. Donc vous mettez vos champignons dedans, dans un sachet primeur, j'appelle ça. Vous fermez, bac à légumes. Et ça peut tenir 2-3 jours sans problème. Il faut savoir qu'au bout du 4e jour, il va commencer à se ramollir un peu. Mais n'hésitez pas à l'utiliser, il sera quand même bon. Mais ça sera plus la même saveur qu'on aura au premier jour.
Ouais, parce que pour les anges qui achètent leurs fruits et légumes dans les supermarchés pour des raisons pratiques ou pour des raisons financières, c'est vrai que souvent, quand on prend en vrac justement et qu'on se sert, on a ces fameux sachets plastiques qu'on doit fermer après la pesée. Et là, c'est vrai que la durée de vie des champignons, elle est de quoi un jour ou
mais
deux,
bien sûr.
Parce qu'ils vont pourrir tout de suite.
Et pourquoi ils vont pourrir? Je vais vous le dire, tout simplement parce que quand vous allez mettre des champignons dans un sachet en plastique, il va transpirer. Et si un champignon transpire dans son sachet en plastique, qui dit transpire, dit moisissure. Donc le champignon, il va moisir. Et là, je vous déconseille totalement de le manger. Donc évitez les sachets en plastique, s'il vous plaît, pour mettre vos champignons. Utilisez des sachets primeurs. Vous les conserverez beaucoup plus longtemps et ils garderont toute leur saveur.
On les change de récipient, même un petit sopalin, un petit papier absorbant au fond.
Mais toujours dans un petit sachet quand même qui absorbe l'humidité. C'est très important.
À la base, c'est un parasite, Manu, le champignon.
Absolument. Alors c'est un parasite qui vient du mycélium, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fait, Atef disait, ça me faisait sourire parce que Atef disait le champignon va moisir, alors que à la base c'est déjà lui une moisissure, c'est-à-dire que même une moisissure.
Exactement.
Peut moisir.
Donc là, on fait l'effet inverse.
Absolument. Et donc à la base, effectivement, c'est une moisissure, mais une moisissure noble et comestible. Enfin, pas tous. Hein. Oui. Pas tous. D'ailleurs, pour les gens qui ramassent des champignons, vous pouvez le faire, c'est bien. Mais alors, les gens ne le font plus parce que on a l'impression que
on allait chez le pharmacien.
Absolument,
ou
il
ne
faut
alors
pas hésiter à aller chez le pharmacien pour poser la question. Il y a des livres aussi qui sont très bien faits, qui vous parlent des variétés de champignons. Mais avec les livres, il y a des champignons qui se ressemblent tellement, certains étant toxiques, d'autres pas. Moi, je conseille
d'aller
voir le
pharmacien. Chaque champignon a son jumeau toxique. Donc voilà, ça c'est très important. Chaque champignon a son jumeau toxique.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Atef?
Ça veut dire que si on cueille soi-même ces champignons, il faut faire très attention à ne pas choisir le mauvais champignon car on risque de faire des dégâts à la maison. Voilà. Et saviez-vous que la truffe était un champignon ?
Ah ben bien sûr.
Monsieur Martini. Voilà. Donc je tenais à le tenir par nos consommateurs parce que parfois ça reste la surprise de savoir que la truffe est un champignon.
Tuber melanosporum et tuber c'est champignon. Voilà donc. Voilà.
C'est pas un gros mot bien sûr.
Non, tuber c'est pas un gros mot, c'est même très bon.
Alors pour ceux qui ont notre âge monsieur Martini, avant il y avait ce qu'on appelle le chariot des entrées et sur le chariot des entrées, il y avait invariablement les champignons à la grecque.
Oui.
C'est quelque chose qu'on fait plus du tout ça, c'est complètement passé de mode les champignons à la grecque.
Ouais, alors ça revient sur certaines tables dans la bistronomie, ça revient à la mode. Le champignon à la grecque, on en retrouve un petit peu, et c'est vrai que c'est un plat qui était très répandu pour une raison très simple. Philippe, il y a une raison à ça, c'est que pendant très longtemps, le champignon à la grecque, c'était une entrée qui était au programme du CAP de cuisine. Et tout ce qui était au programme du CAP de cuisine,
on le retrouvait donc sur les chariots des entrées.
On le retrouvait sur les chariots des entrées. Et puis les plats qu'on apprenait au CAP de cuisine, moi quand j'ai fait l'école hôtelière,
ils sont modernisés.
Il y a un peu plus de 30 ans, il y avait des plats qu'on étudiait. C'était le curry madras, la blanquette de veau à l'ancienne, le bœuf bourguignon. C'était les plats que vous retrouviez absolument dans tous les restaurants. Parce que c'était effectivement les plats que ça va faire les cuisiniers qui sortaient de l'école, tout simplement.
Et donc, ces fameux champignons à la grecque.
Eh oui, champignons à la grecque, absolument.
Donc, on a hâte que la gastronomie remette à la mode ces champignons à la grecque. Comme ça, on fera encore
oui,
plus de ventes
bon
de champignons.
Les champignons à la grecque, en plus. Hein.
Ouais, puis c'était bien, les chariots des entrées.
Et je voulais juste revenir sur une seconde sur la conservation, Philippe, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, comme on les conserve, on vient de les acheter, mais on peut les conserver à long terme. Hein, je veux dire, la conservation des champignons, on peut faire ces conserves de champignons. Avec la lactofermentation, ça marche très très bien, les champignons. On peut les garder, quand on a justement pour avoir des champignons en toute saison, et comme on n'a pas forcément le matériel pour faire sécher ces champignons à la maison, si on a des beaux cèpes ou des belles morilles qu'on veut garder pour plus tard dans l'année.
Et si on les met au four, ça marche pas? Si on les fait sécher au four?
Non, parce que le four, c'est un peu trop agressif. Il faut pas confondre dessiccation et cuisson. Hein. C'est très différent. Hein.
Non, mais pour les faire sécher, hein, simplement.
Ouais, mais il faut avoir un très bon four, il faut le faire très longtemps, à très basse température.
Il y a un certain processus à faire et...
C'est compliqué. Mais alors, il y a des dessiccateurs. Alors, allez sur des... On en avait parlé dans un
dessiccateurs.
Oui, des dessiccateurs, c'est des outils pour faire sécher les aliments. Vous avez quelques sites internet où on en trouve pas très très cher, autour de 15-20 euros. Et qui fonctionne plutôt pas mal. Allez sur des sites genre Kitchen Bazaar ou autre, je pense que vous trouverez ça.
Mais pour éviter tous ces problèmes de conservation, on les achète au quotidien, il y en a toute l'année.
Chez le primeur, pas au supermarché.
Je l'ai pas dit, vous l'avez dit, c'est Martini, mais chez le primeur, on en trouve toute l'année, donc manger les frais, c'est encore meilleur. Et si vous n'avez pas le choix, bien sûr, on vous donnera des conseils de conservation.
Alors, en plus des champignons de Paris, qu'est-ce que vous vendez en ce moment comme champignons? Qu'est-ce que vous avez à dispo?
Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. On a justement le shiitake, mais on n'a pas grand-chose parce que là, j'ai eu, il y a quelques jours, des champignons, mais des petites girolles françaises, mais très peu de quantité, comme je le disais tout à l'heure, monsieur Martini. On est dans une saison, il n'y a pas eu beaucoup d'eau, donc forcément, on n'a pas beaucoup de champignons. Donc, ce qu'on trouve actuellement dans les rayons, c'est beaucoup de champignons de Paris. Et on peut aussi trouver de la cèpe, on peut trouver de la girolle. Tout dépend des arrivages, des productions et des producteurs de ce qu'ils peuvent nous amener au quotidien. Parce que vous savez, on travaille au quotidien et au quotidien, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Donc, oui, c'est la pleine saison des champignons. Mais si.
Mais il y en a très peu, c'est ça.
Il y en a très, très peu. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de cèpe.
Enfin, des bons, il y en a peu parce que des champignons d'importation qui n'ont pas de goût, il y en a plein. Hein. On en trouve sur tous les étages.
Voilà, c'est ce qui peut faire la différence justement quand vous achetez vos fruits et légumes, c'est la qualité des produits. Et aujourd'hui, très peu de production, donc peu à l'étalage.
Et quand vous allez chez votre artisan pour acheter quelque chose, que ce soit un artisan boucher, un artisan primeur ou autre, quand il manque quelque chose, faut pas lui en vouloir, c'est signe de qualité. Quand il manque quelque chose, ça veut dire qu'il ne fait que des produits frais selon les arrivages.
Effectivement, c'est pour ça qu'on préfère dire non à nos clients. Au moins, on est sûr qu'il ne sera pas déçu du produit. Et même s'il l'achète ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais nous, personnellement, chez les primeurs, on préfère avantager la qualité et le goût du produit. C'est une priorité chez nous.
Bon, l'émission est en direct. J'aimerais bien avoir au téléphone ce matin ceux qui vont, ce qu'on appelait aller aux champignons.
Alors,
racontez-nous si vous en avez vu cette année, s'il y a des régions où on trouve encore des champignons. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Vous pouvez en profiter également pour poser toutes vos questions sur la conservation et la cuisine des champignons. 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de champignons au bar, c'est monsieur Martini qui est là et qui vous sert. Un autre invité, c'est Atef Barbouche qui dirige avec ses frères une institution. Si vous aimez les grands primeurs, ça s'appelle la ferme de Longchamp. Quelle est l'adresse d'ailleurs?
Alors la ferme de Longchamp, vous trouvez ça 58 rue de Longchamp. Depuis 1948, hein, Paris 16e. Alors la rue de Longchamp, en plus, c'est une rue où il y a eu des très grands restaurants, hein, Jamin de Joël Robuchon, Faugeron de Henri Faugeron lui-même,
ouais,
etc. C'est une puis il y a Roland Durand aussi.
Donc à savoir que Monsieur Henri Faugeron est toujours client du magasin La Ferme de Longchamp.
Et il a passé courses là-bas. Alors.
Vous lui passerez le bonjour de ma part ainsi qu'à sa femme Gersande qui est adorable.
Et d'ailleurs Jamin est un client aussi. Et Jérémy, qui est dans la rue de Longchamp, est un client.
Ah oui, alors le nouveau Jamin, parce que Jamin a été...
Le nouveau, exactement. Ouais. Et il y a le Jérémy qui est juste en face. Et pareil, c'est un restaurant que je vous conseille fortement, que ce soit Jamin, Jérémy.
Tout à fait. Alors vos horaires, pardon, parce que j'ai oublié de donner ça, c'est du lundi au samedi de 8h à 20h, c'est ça?
7h30 à
20h. 7h30, 20h. Ah bah, je vous ai...
7h30
Oh la vache. Je vous ai filé 30 minutes de grasse matinée.
Ouais,
après,
j'étais bien
content. C'est pour ceux qui prennent un jus avant d'aller travailler.
Alors, allez voir surtout le site de la ferme de Longchamp, lafermedelongchamp.com.
LFLcréation.com.
Voilà. LFLcréation.com, ouais, c'est plus simple parce que sinon vous allez coller un S à Longchamp, vous allez pas y arriver. Et puis la page Facebook aussi, donc la ferme de Longchamp Paris, et vous verrez les créations d'Atef Barbouche, les créations qu'il fait à partir de fruits ou de légumes. Et c'est vrai que c'est un petit peu de l'art. Il y a des palaces d'ailleurs des palaces du 16e, du 8e, etc., qui vous commandent des compositions.
Aujourd'hui, c'est vrai que ce genre de composition attire une clientèle diversifiée. Et parfois, on a justement une certaine clientèle dont ne peut pas certains communiquer le nom, mais c'est vrai, c'est une très belle clientèle qui fait appel à nous pour certaines
choses. Moi, je peux balancer, genre Emmanuel Macron, c'est ça?
Vous pouvez balancer. Et ça, effectivement, récemment, on a servi Emmanuel Macron un beau plateau de fruits avec deux beaux gâteaux de fruits pour Madame Macron.
Ah, il y a du scoop, là. Bon.
Ah bah, moi, je balance. Hein.
C'est fou ce qu'on
c'est
fait.
C'est mon côté people. Hein.
Ouais, people, Monsieur Martini. Donc, on peut faire énormément de choses avec les champignons, on le verra tout à l'heure. Il y a Mana qui est au standard au 01 53 48 3000. Mana, bonjour et bienvenue.
Bonjour à vos invités.
Mana qui est pizzaiolo, j'imagine que des champignons vous en utilisez dans les pizzas.
Ah oui, ça.
Mana.
Ouais, exactement. Enfin, on n'utilise pas tous les champignons, mais on utilise quelques-uns, effectivement.
Alors ça aussi, c'est avec des guillemets, un métier de Tunisien, le pizzaiolo, parce que la pizza, c'est en Tunisie, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on vénère un peu, la pizza. Hein.
Ben, en Algérie aussi, hein.
Non, mais ça, Manu, vous êtes sur un terrain glissant, c'est très bien. Mana, qu'est-ce que vous vouliez dire?
Moi, j'ai une question à vos invités, en fait, ça concerne. Parce que moi, j'utilise, bon, c'est vrai, j'utilise les champignons, moi, j'utilise souvent, bon, bah, le shiitake, je l'ai utilisé en 2013, où j'ai été meilleur pizzaïolo de France en pizza éthique.
Ah, bah, félicitations.
Avec
félicitations.
Le shiitake, bien sûr.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez, Mana, comme champignon?
Bah, actuellement, je vais utiliser la chanterelle, parce que je prépare le championnat de France de la pizza à Paris pour 2019.
Oui.
Donc, je vais utiliser la chanterelle, justement.
Est-ce que vous la pré-cuisez, la chanterelle?
En fait, personnellement, justement, la question, elle est là, c'est qu'en fait, je pense que je vais donc les nettoyer seulement, uniquement parce qu'elles sont un peu sableuses.
Oui.
Je pense qu'avec une poêle chaude, comme disait votre invité, peut-être une pointe d'huile, je pense, parce que j'ai besoin de leur donner une dorure, en fait, une brillance.
Ouais, de les raidir un peu et de les colorer, c'est ça.
Voilà, donc vraiment une poêle très très chaude, comme disait votre invité. Vraiment 30 secondes la faire tourner, en fait, le tourner des champignons, comme on dit.
En fin de cuisson.
Salé, poivré. Et je sais pas ce que l'on pense votre primeur, justement, qui est là et,
Atef, sur le procédé utilisé par Mana, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc Mana, déjà bonjour,
bonjour.
Et enchanté.
Bonjour, bonjour.
Donc moi, si j'ai un conseil à donner pour nos pizzaiolo, ça serait de mettre justement, parce que les champignons, si vous avez un four qui est, si je me trompe pas, à 220-240 degrés.
320.
Même 320 degrés. Donc du coup, c'est un four qui est très très chaud. Donc pour pas abîmer le champignon, moi ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de les mettre à la dernière minute de cuisson. C'est-à-dire comme ça, en fait, vous les faites cuire séparément. C'est vraiment, vous voulez avoir une très belle cuisson, comme je disais tout à l'heure, poêle très chaude, cuisson de pas très longtemps, juste 1 à 2 minutes, les faire juste sauter et retourner, vous les enlevez, et là, vous les mettez juste en fin de cuisson de votre pizza, à la dernière moment, et là, justement, vous allez préserver tout ce côté doré extérieur du champignon, et vous allez avoir toute cette saveur que vous recherchez, justement, pour gagner le titre de meilleure pizza de France.
Bah, vous me l'avez retiré de la bouche, en fait, c'est exactement ce que je vais faire, mais ça concerne vraiment la cuisson, en fait, est-ce qu'elle est bonne, elle est vraiment une petite pointe d'huile, juste pour leur donner une dorure.
Ouais, juste une petite pointe d'huile. Ouais, elle fume quand vous mettez vos champignons.
Exactement.
Si vous mettez vos champignons dans une huile pas assez chaude, ils vont rendre de l'eau et quand ils rendent de l'eau, ils rendent du goût.
Alors un mot sur la salaison d'ailleurs des champignons. On les sale à quel moment?
À la fin. On sale toujours ces champignons à la fin parce que si on sale à l'avant, eh ben ils relâchent beaucoup d'eau. Voilà. Donc si Monsieur Martini veut bien compléter,
je confirme. Oui. Et en plus là pour vos pizzas, comme vous avez d'autres ingrédients qui sont déjà assaisonnés, comme la base tomate. Et d'autres ingrédients qui peuvent être déjà salés. Si vous posez vos champignons dessus et que vous mettez ça à cuire, le champignon va s'imprégner du sel et va rendre de l'eau. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec
Atef. Et souvent les pâtes elles vont être mouillées, pâtes à pizza mouillées.
Voilà. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Atem, qui dit mettez le champignon, quitte à les faire, à les pré-cuire avant, justement, donc à l'huile bien chaude comme ça, bien fumante, et vous les mettez au dernier moment, et comme ça vous pourrez avoir justement le côté bien doré, un peu croûté du champignon comme vous le vouliez, quoi.
Et bien sûr, la saveur va être au rendez-vous, je pense que vous allez être très très content, parce que ça n'a rien à voir quand on cuit un champignon en direct sur une pizza, ou quand on le pré-cuit avant à la poêle et on le met en fin de cuisson. Ça change tout de la saveur du champignon.
En sachant que, de toute façon, nous, on ne les cuit pas, les champignons, quoi qu'il arrive. Hein,
peu importe
les champignons, on ne cuit jamais. Il y a uniquement un seul champignon qu'on cuit, c'est le champignon de Paris, en fait. Parce que lui, il est un peu plus... c'est pas les mêmes.
Résistant.
C'est pas de la même famille. Donc, il est plus résistant, exactement. Donc, soit on le met en dessous, ils mettent le fromage par-dessus, certains le font. Soit, je coupe très, très fin, très, très fin, et je le mets par-dessus, et il va cuire avec la chaleur de la pizza, en fait.
Voilà, mais c'est ce que je reproche toujours, essayer de cuire un champignon bah justement différemment que sur la pizza, il aura vraiment un autre goût parce que vous allez voir, ça n'a rien à voir un champignon, même un champignon de Paris, hein. Un champignon de Paris aussi, ce que je reproche dans une pizza, même si on le coupe très très fin, à 300 degrés, il va légèrement noircir et c'est vrai qu'il va donner, même à la dégustation, il n'aura pas du tout la même saveur qu'un champignon qui aura été cuit à la poêle ou préalablement cuit avant d'être mis sur la pizza.
Ah, mais je vous rassure, hein, monsieur Champignon, quand ils sont coupés très très fins, on les cuit pas. Enfin, moi, personnellement, je les cuit pas.
Bon, Mana, à bientôt. Merci d'avoir appelé. On parlait de la façon de couper les champignons. Par exemple, dans une salade, c'est prépondérant, hein, cette histoire de...
Ah, dans une salade,
Faut qu'il y ait un peu de mâche, faut qu'il y ait de la croque, quoi.
Par contre, comme disait Ama avant, là, oui, il faut des champignons coupés très fins dans une salade. On les apprécie mieux avec la texture de la tomate et de la salade elle-même. Donc, quand on coupe des gros morceaux, on n'a pas du tout le même goût au palais. aller. Et je conseille vraiment de, si on fait une salade de champignons, couper très fin.
Ouais, 2 petits millimètres, c'est bien.
Très bien, exactement.
Alors ça va avec tout, les champignons, avec les pâtes, par exemple, Manu.
Ah oui, alors bah, je vais vous donner pas vraiment une recette parce que j'ai pas les dosages en tête, etc. Mais moi, quelque chose que je fais souvent et vous pouvez le faire à la maison, c'est hyper simple. Vous achetez les trompettes de la mort. Alors les trompettes de la mort, vous les ouvrez en deux, vous les frottez un petit peu avec une petite brosse, etc. Mais surtout, vous ne les lavez pas. Et vous mettez tout dans le mixeur avec de l'ail, de l'échalote, un petit peu de persil. Et vous mettez, je mets un cube de bouillon de légumes bio dedans. Et vous mixez le tout. Et ça après, alors il faut pas que ce soit une pâte hein, ni une soupe. Hein, il faut que ça reste un petit peu des morceaux. Vous mettez ça dans une poêle, huile d'olive chaude, fumante, très chaude. Vous balancez ça dedans et dès que les champignons commencent à rendre de l'eau, vous rajoutez un petit peu de crème fraîche épaisse. Alors jamais de crème fraîche, 5% de matière grasse, ça sert à rien, c'est de la flotte. Vous mettez une vraie crème fraîche entière, minimum 30% de matière grasse dedans. Donc vous ajoutez ça dedans dans les champignons, vous laissez un petit peu réduire et quand la crème commence à devenir un petit peu brune, de par les trompettes de la mort et de par le fait qu'elle a réduit, vous mettez ça sur des tagliatelles fraîches que vous avez cuites al dente, un peu de sel, un peu de poivre, c'est super bon, hyper facile à faire.
Atef, un potage, tiens, par exemple.
Justement, il parlait qu'il ne fallait pas que ça fasse une soupe. Pourquoi pas une soupe de champignons.
Ouais.
Dans ce cas-là, comme on disait tout à l'heure, comment faire cuire les champignons sans eau. Là, effectivement, on va préserver l'eau du champignon pour faire notre soupe, car c'est très facile. On découpe ces champignons, on les passe à la poêle, filet d'huile d'olive, on laisse dégorger toute cette eau. On les passe au mixeur avec 1 litre d'eau. Une petite échalote, comme disait notre ami Martin tout à l'heure, un petit peu de sel, un peu de boivre, mais à la fin.
Ouais.
Et on fait tourner tout ça et on a une belle soupe de champignons.
Velouté, ouais.
Voilà, un beau velouté fait en à peine 10-15 minutes et franchement, c'est un vrai régal.
Une autre recette, Manu?
Écoutez, sinon... moi, j'aime beaucoup en entrée avec les champignons de Paris. Vous savez, vous coupez des champignons de Paris pas trop fins, 2-3 millimètres d'épaisseur. Alors, vous prenez des beaux champignons de Paris bien blancs, bien fermes. Vous les coupez donc 2-3 millimètres d'épaisseur. Vous les gardez crus comme ça. Vous faites un mélange. Vous faites comme une sauce cocktail, en fait. Mais au lieu de mettre de la mayonnaise, vous mettez de la crème fraîche épaisse avec un petit peu de concentré de tomate, un petit peu de sauce anglaise. Vous savez, la Worcestershire sauce, Philippe, que vous prononcez si bien. Ou si vous n'avez pas, vous mettez un petit peu de sauce de soja éventuellement dedans. Du sel, du poivre, vous mélangez tout ça, vous mélangez vos champignons avec, de la ciboulette ciselée dessus. C'est hyper simple et c'est super bon et les enfants adorent en plus.
Et une autre recette très très facile à faire à la maison, si on a envie de faire une belle entrée au fromage, vous prenez votre champignon, vous le retournez, vous enlevez le pied, vous le fourrez avec un peu de gorgonzola, vous mettez au four 15 minutes à 220 degrés et vous allez avoir des beaux champignons à la crème exceptionnels.
Et vous gardez les pieds pour faire la soupe, par exemple.
Bien sûr, vous gardez les pieds pour faire une très bonne soupe, effectivement.
Champignons de Paris, là, bien sûr. Hein.
Bien sûr, ouais, champignons de Paris, des gros champignons.
Rien ne se jette, je le rappelle.
Et après, on peut les farcir à ce qu'on veut. Hein. Je dis gorgonzola, mais pourquoi pas de la crème fraîche, un peu de ciboulette, avec ce que vous voulez. On peut même les pré-cuire et les garnir après, les fourrer après, si justement le fourrage n'a pas besoin de cuisson. Donc, on peut tout faire avec les champignons.
Manu, vous êtes allé au restaurant cette semaine.
Absolument, Philippe. Je suis allé chez Beau. B.O. accent circonflexe, c'est le restaurant de Julia Sedevdian. Alors Julia Sedevdian, j'ai été surpris de la voir toute la semaine dans l'émission. Alors attendez, c'est cette émission sur W9 où les gens vont à tour de rôle les uns chez les autres pour cuisiner.
Le dîner presque parfait.
Voilà, le dîner presque parfait. Merci à Tef, je ne retrouvais pas le nom. Un dîner presque parfait. Et en fait, elle était là incognito, chef étoilé, Julia Sedevdian, plus jeune chef étoilé du monde. Et en fait, elle était là incognito, elle se faisait passer pour une candidate. Et évidemment, bon, elle a tout déchiré, hein, parce qu'on connaît le talent de Julia Sedevdian. Et donc voilà, bon, ça c'était juste l'anecdote. Alors, Julia Sedevdian, elle a ouvert un restaurant qui s'appelle Bayetta, rue de Pontoise, et Bayetta, ça veut dire bisou en langage niçois. Et puis, comme elle aime bien aussi la culture caribéenne et les cuisines créoles, elle a ouvert juste à côté, quelques mois après, un deuxième restaurant, Beau, B-O accent circonflexe, et je vous donne en mille, Philippe, Beau, ça veut dire bisou en créole. Voilà, donc c'est 8 rue de Poissy, Paris 5e, fermé dimanche et lundi. Alors, c'est quoi? C'est un bar... comment on pourrait l'appeler ? C'est un petit bar à manger, quoi. C'est un bar à tapas créole. Alors le cadre, c'est cosy avec des jolies plantes, des tables et des chaises hautes. Alors généralement, je trouve que c'est très inconfortable, les tables et les chaises hautes, mais là, ici, elles sont bien douillettes. On est bien installé. Alors la cuisine, là, c'est pas de la cuisine niçoise comme je vous le disais, cuisine caribéenne, et c'est un bar à manger avec des spécialités créoles sous forme de tapas. Tout ça, c'est servi à prix fixe. 6 € pour les assiettes salées, 5 € pour les assiettes sucrées. Donc, on peut faire un petit mix.
Alors, qu'est-ce qu'on mange, ouais?
Alors, de toute façon, la carte, tout fait envie. Alors, la dernière fois que je suis allé dîner, j'ai mangé une chic thaï à la morue. Il y avait une chic thaï au poulet boucané aussi, donc le poulet fumé. Il y avait une chic thaï au hareng.
Je sais pas ce que c'est de chic thaï, de toute façon.
Alors, chic thaï, ça veut dire qu'on a, chic thaï, c'est on a déchiqueté. Voilà. On a déchiqueté. Une chic thaï, c'est qu'on a émietté, voilà, c'est un émietté, pour être précis. Il y avait une salade avocat et crevettes exemplaire, hein, qui a rien à voir avec celle que vous trouvez à la cantine d'entreprise. Un féroce d'avocat et morue qui était bien citronné, ou un très bon tartare de poisson au lait de coco qui était vraiment exceptionnel. Et tout ça, c'était au prix fixe de 6 €. Donc, comme c'est des petites assiettes, vous pouvez mixer. Il y a des trucs très sympas. À côté dessert, vous pouvez essayer la panna cotta coco mangue ou la tartelette mangue passion qui était aussi très très bien. Alors comme l'endroit ouvre tôt, on peut aussi juste venir faire un after work en sortant du boulot pour boire un petit cocktail.
C'est-à-dire?
Bah tôt, c'est à partir de 17 h, hein. Les horaires, ça démarre à 17 h et ça jusqu'à 22 h. Donc on peut venir pour un after work.
C'est comme un teuf qui ouvre à 7 h 30 le matin.
Voilà, c'est ça. Et là c'est plutôt le soir.
Et là c'est les tapas, on peut dire que c'est des ouvertures espagnoles du coup.
Oui, alors c'est d'inspiration espagnole, mais c'est de la cuisine créole. Et alors quand vous venez pour un after work, il y a des très très bons cocktails avec ou sans alcool. Et puis il y a un chaloupé de beau, c'est un assortiment de 4 assiettes salées et 2 assiettes sucrées qui coûte 30 €. Donc vous partagez ça avec un copain et vous prenez un petit cocktail à côté, c'est un très bon truc. Et puis pour rien gâcher, le service, il est à l'image des habitants des Caraïbes, chaleureux et souriant. Alors chez Beau, la nouvelle adresse de Julia Cedevjian, faut pas y aller, faut plutôt y courir.
Bon, là vous m'avez un peu donné envie.
Rappelez l'adresse, Manu.
Alors donc je rappelle l'adresse. Donc Beau de Julia Cedevjian et 8 rue de Poissy à Paris 5e, c'est fermé dimanche et lundi et le service c'est de 17 h à 22 h. On mange pour environ 25-30 € à la carte, donc en plus c'est un prix sympa.
Alors Beau, c'est également une boulangerie à Paris qui est peut-être la meilleure boulangerie, oui, de Paris, rue de Charenton, et ils font des croissants pour demain, tiens, si vous avez jamais goûté, à la framboise et au chocolat, si vous voulez un peu impressionner votre famille, regardez sur internet boulangerie Beau. Rapidement, un livre qui parle de champignons, Manu.
Ah oui, alors c'est un livre qui est une vraie référence, hein. Il est aux éditions La Martinière, qui généralement ne réédite pas toujours les livres, mais celui-là, depuis 2013, il est régulièrement réédité. Je veux bien entendu parler du livre Champignons, 65 champignons de Régis Marcon, qui est un chef triple étoilé, avec des magnifiques photos de Philippe Barret. Il coûte 45 €, mais c'est un très bon investissement parce que c'est un très bon livre. Et je vous recommande absolument d'acheter ce livre comme bible du champignon, Philippe.
Merci à Tef d'avoir été avec nous. On rappelle que la ferme de Longchamp, c'est 58 rue de Longchamp à Paris dans le 16e. Merci de nous avoir suivis.
Et merci à tous de nous avoir écoutés.
À bientôt et à samedi prochain.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.